Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour RTL Grand Soir. C'est votre rendez-vous avec l'actualité de votre journée à tête reposée. Avec à la une ce soir, l'insoutenable vidéo d'un aide-soignant en train de martyriser une patiente de 98 ans dans un EHPAD d'Arcueil. Reportage complet dans un instant dans le Val-de-Marne. 21 ans à la tête de la mairie de Bordeaux, Alain Juppé quitte sa vie de toujours pour rejoindre les sages du Conseil constitutionnel à Paris, non sans émotion. Le mouvement des Gilets jaunes qui commence à lasser les Français, selon un tout dernier sondage de l'Institut Elabe, 56% des personnes interrogées souhaitent la fin de la mobilisation citoyenne. Et puis clap de fin pour l'Airbus A380, fin de production annoncée pour 2021. À la fin de votre journal, 3 minutes pour comprendre l'avenir du secteur automobile de demain avec Patrick Pellata, ancien directeur général de Renault, missionné par l'État pour conserver toute l'attractivité, en tout cas de la France, dans ce domaine. Le football, Rennes n'a pu faire mieux que match nul, 3-3 en huitième de finale aller de la Ligue Europa face au Betis Séville. La météo, ce sera tout beau, tout doux demain après cette nuit de Saint-Valentin. Sans oublier votre rendez-vous habituel, 22h20, le magazine de l'écho, et à 22h25, invité VIP, le chanteur Corneille, de retour avec un dernier album de circonstances qui parle évidemment d'amour, avant comme chaque soir de retrouver bien sûr à 22h30 Caroline Dublanche pour Parlons-nous. Plus que jamais, vous êtes bien sur la première radio de France.
RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Image terrible où l'on aperçoit un aide-soignant en train de frapper une pensionnaire de 98 ans. Sa famille ayant au préalable posé discrètement une caméra dans la chambre. Maltraitance reconnue par l'intéressé. En immersion pour RTL ce soir, Vincent Serrano, vous êtes rendu sur place à la maison du Grand Cèdre, dans cette EHPAD d'Arcueil où les familles sont allées à la rencontre des responsables et de sa directrice.
Oui, et surtout pour leur dire qu'elle n'était pas au courant de ces agissements, cette maltraitance par un aide-soignant de l'équipe de nuit. Chantal avait beaucoup de questions à poser.
Comment ça a été possible? S'il y a des surveillances, est-ce qu'il y a moyen de mettre des choses en place? C'était une personne qui était apparemment très appréciée par certains résidents, donc incompréhensible. Je vais être plus vigilante, bien sûr. Je vais regarder si je vois des hématomes. J'irai au moins le signaler au personnel soignant.
Elle décide donc de faire entièrement confiance aux équipes de cet établissement. Même décision pour Jean-Pierre, qui en a profité pour rendre visite à son père de 92 ans.
Ah ben ma réaction, c'est que c'est inadmissible. Inadmissible. Mais on peut pas en faire une généralité. C'est un cas isolé. Parce que je le vis. Mon père, ça fait 2 ans et demi qu'il est dans cet établissement. Je vois au jour le jour. Je vois le comportement de l'encadrement et du personnel. Bon, il n'y a pas de. Faut pas non plus. En rajouter, voilà.
Ce qu'il a d'ailleurs confirmé auprès des policiers qui continuent d'enquêter, d'interroger ces familles de résidents pour savoir si oui ou non d'autres faits de maltraitance ont eu lieu dans cet établissement.
Merci beaucoup Vincent. Vincent Serrano en reportage aujourd'hui dans le Val-de-Marne pour RTL. Une toute autre émotion aujourd'hui, celle d'un maire emblématique au moment d'évoquer les raisons de son départ de sa ville de Bordeaux. Alain Juppé, l'ancien Premier ministre, va donc rejoindre à Paris les membres du Conseil des Sages, le fameux Conseil constitutionnel, non sans avoir stigmatisé aujourd'hui le climat toxique du moment en France.
L'esprit public est devenu délétère. La montée de la violence sous toutes ses formes, verbale et physique, le discrédit des hommes et des femmes politiques réputés tous pourris. Dans ce climat général, infecté par les mensonges et les haines que véhiculent les réseaux sociaux, l'esprit public, la vie publique sont difficiles à vivre et lourdes à porter.
Alain Juppé au micro de Philippe de Maria, RTL Bordeaux. L'arrivée d'Alain Juppé chez les grands sages après le départ de Lionel Jospin, commenté de façon diverse et variée aujourd'hui à l'Assemblée, à l'image du ressenti de la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen.
Je vois que le Conseil constitutionnel est devenu une sorte de super maison de retraite des responsables politiques qui ont été battus. Je pense que c'est détourné de son sens, cette institution, que... D'y voir M. Juppé y entrer, après M. Jospin, après M. Fabius. Tout cela pour pouvoir s'assurer, en réalité, la fidélité pour le président de la République d'une personne comme Alain Juppé. Car on a quand même tous le sentiment que c'est en récompense, en remerciement du soutien que M. Juppé a exprimé à l'égard d'Emmanuel Macron.
Portrait et surtout de Marine Le Pen de cette place d'Alain Juppé au Conseil constitutionnel. Propos recueillis en tout cas par Frédéric perruche. Environ 8400 personnes ont été interpellées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et 7500 ont été placées en garde à vue. Ce sont les chiffres du ministère de l'Intérieur qui a également affirmé que près de 1300 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés par des petits groupes animés par la haine depuis le 17 novembre. Message également du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, aujourd'hui. Message très clair. Toute dégradation, je cite, toute agression sera poursuivie et sera sanctionnée. De la théorie justement à la pratique, aujourd'hui, avec 4 personnes rattrapées par la justice et présentées en comparution immédiate suite à la tentative, vous en souvenez, de franchissement des portes du bureau du ministère de Benjamin Griveaux à l'aide d'un engin de chantier. Portrait des prévenus avec vous ce soir, Alice Moreno.
Oui, à commencer par Romain, 23 ans, qui reconnaît avoir conduit l'engin de chantier et fracassé la porte du ministère. Le grand méchant loup, ironise son avocat en pointant le jeune homme. Son corps mince flotte dans un sweat trop large, sa barbe naissante peine à recouvrir son menton. Il travaille, vit encore chez ses parents, mais rembourse déjà un crédit immobilier. Un garçon inséré dans la société qui ne mérite pas la prison, selon son conseil. Et il le jure, cette porte, il ignorait que c'était celle d'un bâtiment de la République. À côté de lui, Thomas, encore plus jeune, il vit lui aussi chez sa mère et attend de décrocher un CDI dans un aéroport parisien. Les deux autres prévenus sont un peu plus âgés et contiennent beaucoup moins bien leurs émotions, à moins qu'ils ne réalisent davantage la situation dans laquelle ils se trouvent. Jonathan, 36 ans, un ouvrier des Yvelines, ce père d'un bébé de 19 mois, fond en larmes quand il apprend qu'il pourrait dormir en prison jusqu'à son jugement. Et enfin, Sylvie, 46 ans, qui assure qu'elle n'a fait que filmer la Palette. C'est elle aussi en larmes et tremblante qu'elle est apparue dans la salle d'audience. « Mon fils de 11 ans a besoin de moi », implore-t-elle. Pour elle et seulement pour elle, la procureure requiert le contrôle judiciaire.
Alice Moreno pour RTL. Quelque peu lassés justement les Français de ces actes successifs du samedi, un sondage Elab montre une baisse de soutien des Gilets jaunes. Ils sont aujourd'hui une majorité, 56% des Français à souhaiter l'arrêt du mouvement. Emmanuel Macron a poursuivi aujourd'hui son marathon longue distance dans le cadre du grand débat avec une réunion dans l'Indre avec des élus et des entrepreneurs locaux. Il est allé lui aussi une de sa petite phrase à l'adresse des Gilets jaunes. Ce n'est pas innocent de participer à des manifestations où l'on sait qu'il y aura des violences. Il est temps de revenir à une saine raison. Et puis les députés européens, eux, ont mis en garde aujourd'hui les policiers contre l'utilisation des LBD en Europe. Les lanceurs de balles de défense, et sans les citer, ils ont quand même visé clairement dans leur texte les forces de l'ordre françaises.
RTL Grand Soir
avec Christophe Paco.
22h08, comme un avion sans aile, le géant des airs, l'A380 d'Airbus voit sa production stoppée d'ici la fin des commandes en cours, d'ici 2021. Il va donc falloir redéployer, répartir les effectifs sur d'autres modèles du groupe. Invité exceptionnel ce soir de la Première Radio de France, le tout nouveau patron d'Airbus, Guillaume Faury, qui s'est arrêté d'abord sur la belle histoire de l'A380 avant d'envisager l'avenir.
L'A380 est un avion extraordinaire, ça n'a pas changé. C'est celui qui est l'avion préféré des passagers, mais c'est aussi un avion particulier, c'est un quadrimoteur, un très gros avion, et le transport aérien évolue. Et donc cet avion a eu des difficultés à trouver des commandes ces dernières années, et on a eu ces dernières semaines avec Emirates, qui est la compagnie qui en utilise le plus, une demande de réduire les quantités. Alors, ils vont quand même opérer 123 à 380 à la fin, mais cette réduction des quantités entraîne effectivement le fait qu'il nous reste 17 avions à livrer, et donc les derniers seront livrés en 2021. Donc on arrive à la fin de la phase de production de l'A380, mais ça change pas le fait que c'est un avion extraordinaire. Et puis le marché a changé aussi, et donc on s'adapte, on a mis des bons produits. La réduction de la commande de 380 chez Emirates s'est accompagnée d'une commande de 40 à 330 Neo et de 30 à 350. C'est-à-dire vraiment un engagement très fort d'Emirates sur nos nouveaux avions qui, eux, sont très performants en termes économiques et de consommation carburant.
Le patron d'Airbus, Guillaume Faury, invité de Marc ce soir, de Marc-Olivier Fogiel, justement. Et la bonne nouvelle économique du jour en France, c'est le chômage qui est à son plus bas niveau depuis 2009, depuis 10 ans, donc, l'activité reprend notamment dans le secteur industriel. À l'étranger, à l'instant, le président américain Donald Trump qui va déclarer l'urgence nationale pour boucler le financement du fameux mur qu'il veut absolument ériger à la frontière avec le Mexique afin de lutter, bien sûr, contre l'immigration clandestine. Le président a indiqué qu'il était prêt à signer le compromis budgétaire obtenu entre parlementaires démocrates et républicains afin bien sûr, d'éviter ce fameux shutdown, et un nouveau shutdown en tout cas, cette paralysie budgétaire qui a bloqué déjà l'économie du pays en début d'année. L'urgence nationale, rappelons-le, c'est en tout cas une procédure très rare qui autorise le président à tout simplement contourner le Congrès américain. Guy Noves, l'ancien sélectionneur du 15 de France, réclame près de 3 millions d'euros de réparation à la Fédération française de rugby. Fin 2017, il avait été licencié pour faute grave. Et au prud'homme aujourd'hui, l'ancien coach toulousain s'en est pris au nouveau dirigeant de l'Ovalie, Bernard Laporte, bien sûr le président, et Serge Chimon, son numéro 2, qui stigmatise l'orgueil souvent de l'ancien entraîneur. Noves veut établir que ce licenciement était tout simplement prémédité.
C'est Serge Chimon qui dit qu'il y a une audite et que j'ai pas donné d'éléments. Alors, le problème, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à Serge Chimon? Récemment, il me semble avoir lu qu'il était plus payé que ce qu'il méritait. Mais ils s'en sont pas rendu compte. Alors, tout ce qu'on dit me fait sourire. D'entendre une série de mensonges comme ça a été le cas, objectivement, c'est pas facile quand on a donné 40 ans de sa vie. Dire que je suis quelqu'un d'orgueilleux, encore une fois, ça me touche. Dire que je suis quelqu'un qui me prend pour quelqu'un d'autre, j'ai quand même effectivement passé beaucoup de temps sur les terrains. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, en tant que manager. Effectivement, j'ai eu la chance avec beaucoup de collaborateurs de qualité de gagner beaucoup de titres et de championnats et de coupes d'Europe. Donc je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas, mais qu'on ne me fasse pas passer pour ce que je ne suis pas non plus.
Guy Noves avec Patrick Hisson, premier huitième de finale de Coupe d'Europe en football bien sûr. Dans l'histoire du club de Rennes avec la Ligue Europa, aujourd'hui match face au Betis Séville qui se solde par un match nul, 3-3. Pourtant, les Bretons ont mené 2-0 dès le début de la rencontre. Frustration, on peut l'imaginer, de Clément Grenier.
Il y a un petit peu de frustration de finir le match à 3-3. Maintenant, une victoire pour nous sera qualificative, mais voilà, tout est jouable. C'est une équipe joueuse qui, malgré ce résultat, je pense, va nous laisser quand même des espaces parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Donc à nous d'y croire.
Clément Grenier avec Philippe Audouin, envoyé spécial à Rennes ce soir. Puis à Monaco, ça bouge encore, la tête du club. Le président Dmitri Ribolovlev a limogé tout simplement son numéro 2, Vadim Vassiliev. La météo, ça bouge pas, c'est tout beau. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir à tous, et bien c'est une très belle fin de semaine qui s'annonce. L'anticyclone est bien installé sur une bonne partie de l'Europe, donc les conditions météo seront très calmes tout au long du week-end. Demain, plein soleil dès demain matin sur la plupart des régions, encore quand même localement quelques brouillards ou quelques plaques de nuages bas, en particulier sur le quart nord-est du pays, sur le golfe du Lion, le long de la Garonne et très localement sur les côtes bretonnes. Ce sera un petit peu plus nuageux d'ailleurs sur la pointe bretonne dans l'après-midi et sur le Languedoc-Roussillon, mais partout ailleurs du plein soleil avec des températures encore fraîches en matinée, quelques gelées, moins 2 degrés à Strasbourg, 0 degrés à Cherbourg et Montauban, 1 degré à Lille, 3 à Paris cette année, mais dans l'après-midi, les températures seront très douces au-dessus des normales de saison, jusqu'à 19 degrés pour le maximum à Clermont-Ferrand, 16 degrés à Limoges, 15 à Toulouse et à Bourges, 14 à Paris, 13 à Brest et Lille et 11 degrés à Strasbourg.
Merci mille fois Patricia Charbonnet. Dans un instant, juste après la pause, on parle automobile.
RTL Grand Soir.
Christophe Pacaud.